Jeanne Adebatz, pour évoquer un sujet qui est, dont le titre est « Derrière la technologie, chercher l'humain ». Donc ces auteurs ne sont pas ici par hasard, c'est parce que justement ils ont une capacité d'écrire l'humanité, enfin bref, derrière les récits technologiques. Comment dire, récemment j'ai eu une amie qui m'a dit « Ah, moi je lisais de la science-fiction quand j'étais petite, mais maintenant j'en lis plus parce que ça me fait peur ». Donc visiblement, la personne elle a peur de la technologie. Et alors, c'est quelque chose de fréquent par rapport à la lecture de science-fiction, c'est cette peur de la technologie. Et pourtant, il y a des récits que moi je trouve absolument sidérants parce que il n'y a pas que la technologie. Alors justement, on va regarder avec les auteurs ici présents ce qu'il en est. Robert Charles Wilson est né en 1953 en Californie. Il vit maintenant au Canada, il est canadien. Et puis depuis les années 70, il publie ses premières nouvelles dans des magazines prestigieux comme The Magazine of Fantasy and Science Fiction. Il publie son premier roman en 1986, mais c'est que récemment qu'il s'est imposé en France. Lauréat de nombreux prix, ses quatre romans publiés chez De Noël ont tous été finalistes du prestigieux prix Hugo, la plus haute récompense dans le monde anglo-saxon. Sa notoriété éclate véritablement avec le roman Spin, que j'ai ici sous forme de poche, livre de poche. Il a reçu le prix Hugo en 2006 et le Grand Prix de l'Imaginaire en 2008. Les romans de Robert Charles Wilson sont véritablement démesurés, apportant à leur lecteur le véritable sense of wonder qui est vraiment la caractéristique des romans de science-fiction. Alors, par exemple, dans Darwinia, il y a le remplacement de l'Europe par un continent sauvage et étrange. Dans les chronolithes, il y a la découverte d'un obélisque qui célèbre une victoire qui n'a pas encore eu lieu. Et puis, Spin raconte, en fait, la disparition subite des étoiles, plus d'autres choses. Robert Charles Wilson a une imagination vraiment féconde. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il réinvente de façon très personnelle les grands thèmes classiques du genre, tels que le voyage temporel, les mondes parallèles ou les extraterrestres. Mais c'est surtout l'humanisme de ces histoires mélancoliques qui met en scène d'attachants personnages, un peu paumés dans un climat de fin de monde, qui rend sa lecture inoubliable. Il crée des univers étranges et exotiques dans lesquels évoluent des personnages d'une grande authenticité. Pour Jacques Baudou, Robert Charles Wilson est le romancier de science-fiction nord-américain le plus intéressant, le plus remarquable, le plus impressionnant. Au fait, quelque part, Robert Charles Wilson s'inscrit dans la lignée des grands écrivains humanistes tels Theodore Sturgeon et Clifford de Saimac. Alors, pour lancer le débat, j'aimerais lire un petit extrait de Spin. Il existait manifestement une autre forme de vie intelligente dans la galaxie, et tout aussi manifestement, elle ne ressemblait en rien à la nôtre. Elle était d'une puissance immense, d'une patience terrifiante et d'une indifférence totale envers la terreur qu'elle avait infligée à notre monde. En imaginant les hypothétiques, on pourrait se représenter des robots hyper intelligents ou d'inscrutables êtres d'énergie, mais jamais le contact d'une main, un baiser, la chaleur d'un lit, un mot de consolation. Alors, la question que j'aimerais poser à Robert Charles Wilson, c'est qu'est-ce qui définit l'humain ? Est-ce que c'est la capacité de ressentir des émotions, l'empathie, l'entraide? En quoi cela est-il important dans un roman de science-fiction?
It's often been said that science fiction is the literature that poses the question, what if?
On a souvent dit que la science-fiction était la littérature qui pose une question qui commence par « et si ?»
But I think that's an incomplete question. I think the question « what if ?» is an essay question. The fictional question is, what would it be like if? What would the human experience be if?
Mais je pense que cette question « et si » est incomplète. La question « et si » est une question qui convient plus à une dissertation. La véritable question qu'il faudrait se poser, c'est « à quoi cela ressemblerait si ?» Quelle serait l'expérience humaine que nous aurions si ?
And I think it's a part of our human nature not just to want to know, but also to touch, to feel, to experience and to interact with. The thing about science fiction is that it can offer us a way to have an immediate tactile experience of things we cannot otherwise reach. Through our imagination, we can touch the surface of Mars. Through our imagination, we can feel the wind on an alien planet.
Tout cela, en fait, finalement, cela a trait à la nature humaine. La nature humaine ne veut pas seulement savoir, elle veut aussi toucher, ressentir, vivre, interagir avec les choses. Et je pense que c'est ce que la SF nous offre. Elle nous permet de nous immerger de façon tactile dans les choses, des choses que nous ne pouvons pas atteindre. Par exemple, grâce à notre imagination nous permet véritablement de ressentir ces choses, comme marcher à la surface de Mars ou sentir le vent d'une planète extraterrestre.
And to me, this is what science fiction does. It doesn't discuss technology. It opens the human perspective on technology.
Et je pense que c'est ça que fait la science-fiction. Elle ne parle pas, ne disserte pas de technologie. Elle nous parle de la perception humaine de la technologie.
J'ai un petit deuxième extrait avec une autre question. Un peu plus loin. Mais cela ne me regardait pas, et de toute évidence, le voyage enthousiasmait Eng, qui contrôlait difficilement sa voix lorsqu'il en parlait. J'ai savouré son expression ouverte et impatiente. Eng appartenait à une génération capable d'envisager l'avenir avec plus d'espoir que de crainte. Dans ma propre génération d'excentriques, personne n'avait jamais ainsi souri à l'avenir. C'était un regard bon, profondément humain, qui me rendait à la fois heureux et triste. Par rapport à cet extrait, est-ce que c'est l'espoir qui définit l'humanité?
Well, this is a big question.
Eh bien, c'est une vaste question.
Yeah, I think it does. It's one of the things that science tells us is that we're very small creatures who live for a very brief time in a very large and often hostile universe.
Oui, je pense que c'est le cas. Ce que nous apprend la science, c'est que nous sommes de très petites créatures qui vivent un temps extrêmement bref dans un univers extrêmement vaste.
By any objective standard, we don't really matter.
Selon tout critère à peu près objectif, nous n'avons pas vraiment d'importance.
But we do matter because we matter to ourselves. We create a universe in which we can find hope and faith and kindness and love.
Mais nous sommes importants parce que pour nous, à nos propres yeux, cela compte. Nous comptons à nos propres yeux. Donc, parce que en un sens, nous créons un univers et un univers où nous ressentons l'espoir, la gentillesse, l'amour.
It may be irrational, but it also strikes me as rather noble and wonderful.
C'est peut-être irrationnel, mais moi je trouve ça plutôt noble et merveilleux.
Merci. Nous allons parler un peu de Sylvie Lenné, qui est professeure en sciences de l'information à l'université Jean Moulin de Lyon, qui commence à écrire en 1985 et publie quelques nouvelles remarquées comme Carte blanche, qui est le prix 7e continent en 1986. Et le chemin de la rencontre qui lui vaut le prix Rosny est né en 1986 aussi, puis elle cesse d'écrire, emportée par sa carrière universitaire. Mais quand on aime écrire, c'est difficile de résister à l'appel du clavier. Elle ressurgit au début des années 2000 avec Définissez priorités et La Mirotte, qui confirme que son talent de nouvelliste est intact. En 2002, elle reçoit le prix Alain Dolérémieux, puis en 2003, un deuxième prix Rosny est né avec un signe de SETI. Elle a même réussi pour Les yeux d'Elsa, un triplé exceptionnel. Prix Rosny Aîné 2006, nouveau grand prix de la science-fiction française 2006 et grand prix de l'imaginaire 2007. Sylvie Lenné est une nouvelliste exceptionnelle dont les histoires émeuvent. touche au plus profond de l'être. Pour moi, je trouve qu'il est impossible de rester indifférent en lisant une histoire de Sylvie Lainée, à mon avis, le privilège des grands écrivains. Ces nouvelles sont publiées par les éditions ActuSF dans des charmantes petites éditions, jolis petits recueils que j'aime beaucoup. Et puis le talent de Sylvie se lit déjà dans ses titres, Le miroir aux éperluettes, Espace insécable, Marouflage. La science-fiction de Sylvie Lainée est très sensible, fine, pure, toujours très humaniste. Ses héros, se trouvent fréquemment à la croisée des chemins et choisir sa voie nécessite des sacrifices. Alors, je vais lire un petit extrait d'une nouvelle qui s'appelle Subversion 2.0. Voilà, c'est vous. Ça vous plaît ? Je regarde mon double. Il est un peu transparent par moments. Ils n'ont pas dû encore complètement le stabiliser. Assis dans un fauteuil, derrière la glace sans teint, il regarde dans notre direction. De son côté, il doit y avoir un grand miroir. Est-ce qu'il se doute que nous sommes derrière ? Ou bien il étudie son reflet ? Qu'est-ce que je ferais à sa place ? Alors, Sylvie, qu'est-ce que vous feriez à sa place ?
Le titre de la table ronde, Derrière la technologie, chercher l'humain, oui, je crois que Jean-François a eu raison de dire que on avait peur de la technologie quelquefois, peut-être jusqu'à se demander si elle allait diminuer notre humanité. Et pourtant, on est dans un univers qui est extrêmement technologique, et je ne crois pas qu'aucun d'entre nous se sente moins humain pour autant. S'il y a davantage de technologies, il y en aura probablement plus dans les années à venir. Je vois aucune raison pour laquelle les gens qui vivent dans ces nouveaux environnements se sentiraient moins humains eux aussi. Et moi, ce que je fais avec mes personnages et qui me semble parfaitement naturel, c'est faire d'eux des gens qui sont dans des univers technologiques assez différents des nôtres, mais ils s'en moquent complètement et ils n'y comprennent pas grand-chose et ils trouvent ça parfaitement naturel. Dans je ne sais pas qui parmi nous dans la salle sait comment fonctionne un réfrigérateur ou comment s'affichent les informations sur un écran qui soit cathodique ou autre, mais ça nous perturbe pas du tout. On se demande pas comment ça marche un réfrigérateur. On a une vague idée des principes selon lesquels ça fonctionne. On nous a vaguement expliqué quelques théories. Je pense que pour les gens qui vivront dans un univers très technologiquement différent, le rapport aux techniques sera le même. Simplement, les possibilités qu'offriront ces technologies seront immenses. Moi, j'aimais bien cette idée de pouvoir se faire un double. Alors, dans mon histoire, c'est un double qui a une durée de vie limitée. Il tient à peu près une semaine. On peut faire des tas de choses avec lui ou il peut les faire à notre place. Et du coup, on se met à se poser de nouvelles questions sur qu'est-ce que j'ai envie de faire à partir du moment où je peux avoir un espèce de clone virtuel qui fait mon travail à ma place. Ça me dégage du temps. Qu'est-ce que je vais faire avec ? C'est une question très humaine. Qu'est-ce qu'on fait du temps qui nous est rendu ? Et qu'est-ce qui nous ferait plaisir avec ce temps ? C'est humain, ça, comme question, non ?
Absolument. Avec nous encore Jan Adebat. Le site des Imaginales nous apprend qu'elle est née en Aquitaine et qu'elle y est retournée après 35 ans en région parisienne. Elle repart. Bon, voilà. Écrivain et professeur, elle enseigne le latin et le français dans un collège du Sud-Ouest. Alors, puisqu'elle repart, ce sera ailleurs.
Je retourne à Paris.
D'accord.
Voilà.
Pour enseigner aussi ?
Tout à fait.
D'accord. Comme beaucoup d'auteurs, elle est venue à la science-fiction parce qu'elle était tombée dedans quand elle était petite. Ça me rappelle quelque chose. Notamment grâce à Arthur C. Clarke et Robert Heinlein. Après avoir publié plusieurs nouvelles dans différentes anthologies, elle publie en 2008 une novella, La vieille anglaise et le continent, chez Griffe d'Ancre. Et cette novella la propulse immédiatement sur la scène littéraire. Critiques et publics suivent. Et ce superbe récit écologique reçoit 4 prix littéraires, dont le Rosny Aîné, le prestigieux Grand Prix de l'Imaginaire, catégorie nouvelle, 2009. Depuis, elle est sollicitée par de nombreux anthologistes. Et puis, elle s'essaye aussi à la littérature jeunesse, même plus qu'essayer, à mon avis. Son roman Eden en sursis chez Syros fait partie de la sélection 2010 du prix Imaginal des collégiens. La balade de Trash chez Syros également vient de paraître. Il y a encore celui-là, comment il s'appelle déjà ? Stratégie du réenchantement, hein, c'est tout neuf aussi.
C'est tout neuf, mais ça n'est pas de la jeunesse, c'est un recueil de nouvelles.
Ouais. Et puis il y a un petit mini Syros, L'enfant satellite, qui est aussi sorti récemment. C'est une jolie petite collection. Enfin bref, elle se démultiplie en ce moment. Par ailleurs, aussi anthologiste, puisqu'elle a co-dirigé une anthologie Chasseur de fantasmes sur la littérature érotique. Donc, très éclectique. Alors, dans la vieille anglaise et le continent, ce qui est intéressant, c'est que le docteur Anne Kelvin, qui est une personne âgée de 80 ans et qui est en train de mourir, se fait transférer son corps, son esprit, dans le corps d'un grand cachalot. Dans le corps d'un gros cachalot mâle, afin d'aider les scientifiques à sauver les grands cétacés du monde, au moyen d'un procédé que je ne relèverai pas ici. Mais j'aimerais lire deux extraits de citations. C'est le docteur qui parle, alors qu'elle n'est pas encore transformée. Elle dit « Excusez-moi, Marc, mais nous savons tous les deux où nous sommes capables d'aller parfois pour une idée. » Je suppose qu'elle parlait de l'humanité en général. Mais j'ai soudain l'image des marins que Lib, c'est une association où ce professeur a travaillé, enfin a collaboré, mais j'ai soudain l'image des marins que Lib avait envoyé par le fond avec son aide et sa bénédiction, une vision effroyable de corps boursouflés et à demi dévorés, flottant entre deux courants. Je la fixais calmement. « Vous êtes gonflé, vous ?» Le deuxième extrait. J'eus le temps d'apprendre qu'Elisabeth vivait toujours avec sa mère et que cela l'inquiétait de la savoir seule avec ses deux chats, la vieille dame n'ayant jamais supporté les animaux de sa fille. Elle n'eut pas besoin de me préciser que son angoisse concernait surtout ces deux félins, car elle passa ses heures de veille à m'en dresser un portrait attendri et circonstancié où sa formation d'éthologue se fondait dans une intense affection, ce qui donnait un résultat des plus curieux. Lorsqu'enfin elle s'effondra, vaincue par la fatigue et le stress, je la regardais dormir longuement, m'interrogeant sur ce qui, dans leur éducation, mutilait affectivement à ce point nos chercheurs, qu'ils soient pour la plupart, moi y compris, incapables de vivre avec un autre être humain. Alors ma question est la suivante, est-ce que les chercheurs sont vraiment incapables de vivre avec d'autres êtres humains? Est-ce qu'ils sont tellement obnubilés par leur recherche qu'ils deviennent des machines?
Je ne crois pas, mais j'ai constaté effectivement de façon un peu caricaturale dans cette histoire, que la plupart de mes camarades technologistes avaient tendance à être des solitaires. Maintenant, est-ce que c'était lié... Là, c'était plutôt pour le plaisir de la belle phrase qu'autre chose. Bon, cela dit, je ne suis pas très capable, et je ne suis pas un chercheur, de vivre avec un autre être humain. Je vis plus facilement avec les chats, effectivement. Je ne pense pas que ça soit la faute du latin non plus. Tu voulais dire quelque chose, Sylvie ?
Non, je disais qu'il y avait quelques chercheurs dans la salle. Bon, moi-même, je suis chercheur aussi, d'ailleurs. Mais on a des vrais chercheurs sciences dures. Donc, je pense que peut-être au moment, si on a un petit peu de temps pour les questions après, ils auront envie de réagir à ce moment-là.
Oui, très, très bonne idée, oui. J'aurai un deuxième extrait à lire. Alors, j'ai découvert ce petit livre hier. Je l'ai lu ce matin et je dois dire que par rapport à l'humain, c'est très intéressant. Je vous lis le dos de couverture. Conçu pour la guerre et placé depuis sa naissance dans un satellite espion, Sky 001 a pour mission d'observer les activités ennemies. Mais un jour, il repère sur ses écrans une petite orpheline rescapée par miracle d'une attaque au laser qui court sans le savoir dans la mauvaise direction, celle du désert. Le satellite espion repère cette petite fille qui court dans la mauvaise direction. C'est une ennemie. Hein. Elle s'appelle Fatia. Fatia est mignonne. Elle a la peau dorée et des yeux en amande. Ça me change des têtes toutes pâles des ingénieurs et des docteurs que je vois sur les écrans vidéo. J'aime encore moins avoir affaire aux militaires. Remarquez, ils me parlent comme à une machine. Fatia me repose bien agréablement de tous ces gens, même si je sais que je ne dois pas m'attacher à elle. Bientôt, on m'ordonnera d'aller espionner ailleurs, alors je ne pourrai plus la regarder. Et puis, elle va sûrement mourir. Ça me fait une drôle de sensation. Quelque chose que je n'avais jamais éprouvé avant. Ce n'est pas tout à fait comme de la tristesse ou de la colère. Ça, je connais. On dirait les deux en même temps. Quand Fatia frotte son genou blessé, je sursaute comme si c'était le mien. J'ai mal chaque fois que je la vois tomber. Et quelque chose se noue tout au fond de moi quand je la vois pleurer. Comme maintenant. Alors, cet extrême paraît très intéressant par rapport justement à l'opposition entre la technologie et l'humain. Pourquoi avez-vous écrit ce texte? Quelle est l'idée d'écrire un texte comme cela?
Le thème que m'avait donné Denis Guillot à remplir, c'était la science folle. Et là, en l'occurrence, j'ai imaginé des enfants, des clones, qu'on ne considérait pas exactement comme des êtres humains, déjà, dans leur conception, dont on... l'idée, c'est qu'ils étaient nains avec de super cerveaux, parce que le poids, ça coûte cher dans l'espace. Et leur super cerveau devait diriger les machines. Ils étaient complètement intégrés à la machine dans laquelle on les envoyait tourner autour de la Terre. On avait essayé avec des véritables humains, mais ceux qui avaient eu une vie avant ne supportaient pas, devenaient fous et commençaient à tirer sur tout ce qui bougeait, y compris les cibles de leur propre pays. Donc, c'était pas gérable. Donc, l'enfant satellite fait partie des réussites de ce programme un peu terrifiant. Sauf que fondamentalement, c'est pas la technologie que je mets en... que j'attaque là. C'est pas le marteau que j'attaque. C'est la personne qui tient le manche. Voilà. Donc, en l'occurrence, je crois pas une seconde qu'un être humain intégré dans une machine puisse cesser d'être un être humain et qu'il suffit de lui montrer un autre être humain pour que les vieux réflexes atavique ressortent, notamment la compassion et la tendresse, et dans le cas de l'enfant satellite, on n'est pas très très loin de l'amour. Voilà.
Merci. Donc en fait, si je comprends bien, ce qui définit un être humain, ce sont plutôt les sentiments, alors que ce qui définit une machine, c'est plutôt la logique pure, ce serait ça?
Attends, excuse-moi.
Oui.
Je pense pas que la logique soit complètement... en dehors de l'humanité. Dans un autre jeunesse, j'ai imaginé une héroïne dont la maladie mutile les capacités affectives, les fait disparaître. Et elle garde quand même, par rapport à ses compagnons humains, une façon de take care, de prendre soin, qui est issue de la logique et pas de l'affect. Voilà. Alors qu'on a tendance à penser que les sociopathes sont des logiciens, par exemple, et que c'est logique qu'ils se mettent à tuer tout le monde. Pour moi, c'est une idée qui n'est pas forcément logique, justement. Parce que le meurtre, l'assassinat, la transformation du voisin en tripaille sanglante, ça n'est pas logique. Ça n'est pas économique comme façon d'agir. Donc voilà.
J'ai une question à Robert Charles Wilson aussi. À un moment donné, dans le récit, le martien Wan, c'est comme ça qu'on dit, je ne sais pas si c'est écrit en français, Wan Goving, il dresse un tableau des romans terriens sur les martiens. La guerre des mondes de Wells, les romans de Bradbury, la trilogie sur Mars de Kim Stanley Robinson. Et puis, il a un dialogue avec le narrateur, et le narrateur lui demande « Mais qu'est-ce que vous pensez des histoires les plus contemporaines ?» Et il répond « Très intéressantes, et au moins les protagonistes en étaient-ils humains » Qu'est-ce que vous entendez par là? Quand il pose la question au Martien, il lui a prêté des livres, et puis le Martien répond, oui, les romans contemporains, au moins les protagonistes étaient humains.
Ah,
Ah, yes. Well, it's, what do you mean by that? Well, there's a little irony there because he is himself perhaps a little different from humanity as we know it.
Bah, il y a peut-être un peu d'ironie là-dedans parce que ce martien-là, justement, lui-même, il est peut-être un petit peu différent de l'humanité telle que nous la connaissons.
In the book, the Martians, they're the long-term descendants of a terraforming project.
Les Martiens de ce livre, en fait, sont les descendants à très long terme d'un projet de terraformation de Mars.
But they have a technology to prolong human life, to give great longevity to human beings.
Mais leur technologie leur permet de prolonger la vie humaine et de donner une extrême longévité aux êtres humains.
And in their culture, they've been very careful to surround this with a great number of not just laws, but cultural taboos and moral ideas.
Et ils ont pris très soin d'entourer en fait cette technologie de tout un tas de tabous culturels, de conventions, etc.
They consider it a fourth stage of life, childhood, adolescence, adulthood, and a fourth stage beyond adulthood.
Ils appellent ça le quatrième âge de la vie, le premier étant l'enfance, puis l'adolescence, l'âge adulte, et donc on s'agit donc du quatrième âge.
They didn't want to end up with a group of powerful elders who run their society.
Ils ne voulaient pas se retrouver avec un groupe d'aînés puissants qui dirigerait leur société.
So when you accept the gift of longevity, you give up certain rights in exchange and assume certain duties toward the rest of their culture.
Donc quand on accepte ce don de longévité, en fait, on choisit d'accepter également un certain nombre de droits et d'accepter un certain nombre de devoirs envers le reste de la culture.
And one of the questions that arises in the book, and one that I deal with in the third volume of the trilogy, is how contemporary human beings on Earth would deal with the same technology.
Et une des questions que je voulais aborder et que j'aborde dans le troisième volume de cette trilogie, c'est comment des êtres humains contemporains vivraient et verraient géreraient cette technologie.
And one of the tragedies in the that I deal with in the third book is that we don't deal with it very wisely. Rather than building it into our culture, we commodify it. It becomes something that's bought and sold. If you have enough money, you can live a long time. If you don't, you can't.
Et la tragédie, c'est que nous n'en faisons pas un usage extrêmement sage. Au lieu de l'intégrer tout cela dans notre culture, ça devient une marchandise que l'on achète et que l'on vend. Si vous êtes assez riche, du coup, vous pouvez vous payer cette longévité. Sinon, dommage.
And I think this suggests that there are different ways that we can deal with technology. The technology itself may be neutral, but we have to be very careful about how we integrate it into human existence.
Et je pense qu'il y a différentes façons de gérer l'apport de ces technologies. Une technologie en elle-même, elle est neutre. Ce qui change, c'est la façon dont nous l'intégrons dans notre technologie. Il y a différentes façons de le faire.
Merci. Alors, on pourrait effectivement demander le point de vue dans la salle de scientifiques par rapport à... Un récit de science-fiction, est-ce qu'il doit être finalement très technologique ou est-ce qu'il doit parler de l'humain finalement, quelle est l'idée en fait?
Je ne crois pas que ce soit du tout incompatible. Enfin, moi, tout à l'heure, je disais qu'on peut mettre en scène des gens qui n'y comprennent pas grand-chose à la technologie, ce qui évite de l'expliquer en tant qu'auteur. Mais je crois quand même que pour être crédible, nous, il faut qu'on fasse un certain travail de cohérence et de préparation. Il n'est pas nécessaire qu'il soit visible à l'arrivée. Mais pour que ça marche pour le lecteur, il faut quand même qu'il y ait des indices qui donnent à penser que pourquoi pas, oui, ça a l'air cohérent. On en a besoin. Et ça se travaille en amont. Je crois qu'on fait un travail de camouflage ou de marouflage de tout ce qu'on a essayé de construire comme architecture invisible.
Merci. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ou des interventions? Oui.
Answering us to hard science, scientists would be more social than the others. I would like to comment on that. I am a physician and chemist.
Quoique la chimie, c'est très très proche de l'humain quand même.
There's a kind of sorcery implied in the way you work on matter. It's not removed from philosophical considerations. But I think that when you work on matter, on the hard sciences, on the mathematics, you are used to getting out of classical ways of thinking. You start from things that seem to be logical, but you learn to get away from this logical way of thinking. So you might have quite a strange way of seeing the things around you. You can look at human beings as cells interacting with each other, and then you look at yourself in the outside world. That might give this somehow aloof behavior. But in science fiction, you also learn to change the way you see things, as you see yourself, and putting humanity in a totally new context. You can have this aloof look to humanity, but it doesn't mean that you are remote. It just means that you have another field. And,
excuse-moi, je vais répondre un peu. D'abord, il faut savoir que celui qui parle dans la situation là. C'est mon héros, et c'est pas moi, d'abord. Et c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement double, qui est manipulateur, qui a un projet qui est éthiquement extrêmement suspect, puisque quand même il va lâcher dans l'océan un virus dont au final on ne sait pas vraiment ce qu'il va donner. Il ne craint pas à la fin de tuer des gens, lui aussi. Le même qui reproche à l'héroïne de l'avoir fait au tout début. Il est mutilé affectivement, Marc, et il voit ça chez quelqu'un d'autre. Bon, là-dessus, il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, le plaisir de la belle phrase, parce que c'est tellement un cliché, le scientifique geek, le savant solitaire dans sa tour d'ivoire et patin un couffin. J'ai pas résisté, hein. Faut être clair. Mais c'est pas une prise de position du tout. Voilà. J'entends bien.
Quelque chose à dire par rapport à. Pardon. Ouais. Bon, ouais, excuse. Donc là, j'ai plus suivi parce que j'ai versé de l'eau. Quelqu'un a par rapport à cette peur qu'ont les gens qui connaissent pas la science-fiction de dire que c'est technologique et puis c'est pas intéressant, je remarque en fait que tous ces écrivains ici présents écrivent des textes qui sont touchants justement et avec en utilisant justement la technologie. J'entends dans le roman de Robert Charles Wilson, des étoiles qui disparaissent, c'est vraiment quelque chose de très cosmogonique, cosmologique, comment est-ce qu'on dit ?
Je ne sais pas exactement ce que tu veux dire.
Cosmique, merci. Cosmique. Voilà, c'est vraiment cosmique. C'est vraiment la science très, très poussée, ça aussi. Et pourtant, le récit traite des réactions humaines face à ce phénomène scientifique inconcevable. Est-ce que nous sommes capables de comprendre l'univers ? Est-ce que nous sommes capables ? Quelle est notre place ? Enfin, je ne sais pas comment formuler ma question, mais pourquoi les gens lisent des textes de science-fiction et les apprécient finalement ? Oui.
Une des choses qu'on peut prendre plaisir à raconter en étant auteur, c'est que moi, je suis persuadée que l'univers n'a pas de sens en lui-même et que c'est nous qui donnons du sens en regardant. Nous le fabriquons, le sens. Et nous disposons de tout un appareillage pour le construire. Et ce qui est intéressant, c'est que cet appareillage, il est variable selon notre culture, selon notre environnement. Donc, ça veut dire, pour répondre à ta question, selon l'univers dans lequel on est, et en particulier selon la technologie dont on dispose, l'univers n'a pas le même sens. Le sens ne préexiste pas. Moi, je suis constructiviste dans l'âme, donc je ne crois pas qu'il y ait un sens qui préexiste. Donc voilà, il faut l'inventer. C'est génial d'avoir à l'inventer.
Je suis tout à fait d'accord avec Sylvie. Et je voudrais rappeler un truc. C'est le cas merveilleux de la machine à laver le linge qui a fait de l'autre moitié de l'humanité des êtres humains à part entière. Je parle des femmes qui ont été dégagées de la pire corvée qui soit et qui prenaient le plus de temps, c'était laver le linge. Ça a fait quand même quelque part de nous des êtres humains. Plus. Oui, mais enfin, on n'avait pas le temps de l'être.
English writer Arthur Koestler once said that there were really only three human aesthetic reactions.
L'écrivain anglais Arthur Koestler disait qu'il y a véritablement trois réactions humaines.
And they were essentially reactions to the unexpected.
Et qui sont principalement donc trois réactions principales humaines qui sont globalement des réactions à l'inattendu.
And they each had a sound associated with them.
Et chacune ont un son qui est associé.
The first was the reaction to when we perceive beauty, and the sound is ah.
Le premier, c'est la réaction que l'on a face à la beauté, et ce son, c'est ah.
The second is the reaction we have to when we get a joke, the laughter, ha ha.
La deuxième, c'est une réaction à une plaisanterie, à l'humour, c'est le rire, ha ha.
And the third is when we understand something unexpectedly, and the reaction is aha.
Et la troisième, c'est quand la réaction qu'on a quand on face à quelque chose d'inattendu ou quand on le saisit. Et c'est aha.
And what I like about science fiction is that we get to work all three of those aesthetic reactions.
Et ce que j'aime avec la science-fiction, c'est qu'on peut travailler avec ces trois réactions en même temps.
Une question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous arriveriez à écrire, à tous les trois, un récit purement factuel, sans être humain à l'intérieur, enfin, il y aurait que des machines. Est-ce que ce serait possible pour vous d'écrire ce genre de récit ou pas?
Ouais.
Je vais laisser répondre les autres.
C'est une drôle de question. Je sais pas si on se l'a... Moi, je me la suis jamais posée, mais je peux répondre. Je sais pas si c'est vraiment une réponse à ça. Il y a quelqu'un qui m'a proposé récemment de travailler avec lui sur un texte où il y avait un seul personnage, tout seul. Et lui, il a su gérer cette situation. C'était un personnage qui interagissait avec des tas d'éléments plus ou moins technologiques ou d'autres races. Moi, je suis incapable de travailler, d'écrire une histoire dans laquelle il n'y a pas des interactions entre des êtres humains. Peu importe la technologie qui les lie ou qui les environne, mais il faut qu'il y ait plusieurs êtres humains pour qu'il puisse se passer des choses intéressantes pour moi.
Alors, je pense que techniquement, oui, je pourrais le faire. Ça n'aurait aucun intérêt pour moi parce que ce que j'aime écrire, c'est le sens, dans le sens l'odorat, le toucher, le plaisir, le déplaisir, les émotions nées des sens. Et avec des machines, ça ne serait pas possible. Ou alors, je tricherais. Donc, la réponse serait non. Affectivement, c'est non. Voilà.
I suppose for me the answer is that if I were... Often when we write about machines, we just anthropomorphize the machines. They're just... They become people with metallic bodies, essentially.
Je pense que quand on écrit sur les machines, on finit par en faire quelque chose de très anthropomorphique. On leur ajoute des pensées et du ressenti.
But even if we're writing about entirely inhuman machines, what becomes interesting is the contrast between the human and the machine. So even though we exclude the human, we're writing about the human by inference.
Mais même si l'on parlait de machines complètement inhumaines, ce qui est intéressant, c'est qu'on mettrait en scène le contraste justement avec l'humain. Par inférence, on finirait toujours par reparler de l'humain.
Donc si je comprends bien, d'ailleurs c'est un peu la réponse que j'attendais de vous, c'est que... on peut pas écrire un récit science-fiction sans qu'il y ait l'humain à l'intérieur. D'accord. Est-ce que dans le public, il y aurait une question? Oui.
going back about technology and researchers, scientists. I believe deeply technology enables us to delve deeper into our knowledge. With microscope, we discovered cells, etc. But I think that technology enabled human beings to understand better what is surroundings. And if you do some history of science, you see that the various techniques gave us a better approach, a better perception of our surroundings, and even of other human beings. That's the first thing I want to say. The second one, related to the theme, does technology not a tendency to dehumanize, contrary to what Sylvie said? Doesn't it have a tendency to dehumanize us? When I see some colleagues, when they're working on their computer, it's easier for them to express what they want to say rather than saying it face to face. And I already noticed that many people have a tendency to hide, in a way, themselves behind their computer to be able to say things they don't dare saying face to face, real to real human beings, because they're afraid of the reaction, and that maybe the other might be able to say, no, I don't agree. And I think that's easier when you are behind a computer to be able to say something, when you want to say something, without taking the risk of being hit.
Excuse-moi, je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas d'accord avec Sylvie, alors.
Well, I don't understand why you don't agree with Sylvie.
Est-ce qu'on devient moins humain Oui. Est-ce que toute la question est de savoir qu'est-ce qu'ils auraient fait s'ils n'avaient pas disposé d'un ordinateur à une autre époque? Est-ce qu'ils auraient discuté avec leurs voisins en direct, ou est-ce qu'ils n'auraient pas, ou est-ce qu'ils n'auraient pas discuté du tout? Moi, je crains un petit peu que les gens qui ont des difficultés dans le face-à-face et l'affrontement n'aient trouvé une porte de sortie en levant quelque chose qu'ils étaient incapables, enfin, en leur donnant quand même une possibilité d'expression moindre, mais qui est mieux que rien du tout. Et qu'est-ce qu'il y avait s'il n'y avait pas eu cette technologie, qu'est-ce qu'ils feraient? Ou est-ce qu'ils n'auraient parlé à personne? Il y a même actuellement dans notre société pas mal de gens qui communiquent très très peu, ordinateur ou pas, et il y en a qui ont réussi à se mettre à communiquer grâce à l'ordinateur, à Facebook. Le téléphone est un outil très impressionnant. L'émotionnel est encore plus difficile à gérer avec le téléphone, il me semble, qu'en direct. Enfin, moi le téléphone me terrifie, alors que je suis très à l'aise pour parler en direct avec des gens, mais j'ai besoin de les voir et de voir leur expression. Mais l'ordinateur, on n'a pas de barrage émotionnel. C'est beaucoup plus facile, je pense. Moi, je crois que je connais des gens qui, grâce à l'ordinateur, sont beaucoup moins isolés qu'ils ne l'étaient avant.
Il y a aussi le cas des autistes qui ne peuvent pas communiquer normalement avec des gens dans une interaction physique et qui ont maintenant des sites où ils échangent entre eux. Et d'ailleurs, où ils se foutent pas mal de notre gueule, nous les non-autistes. C'est très rigolo. On n'est pas forcément conviés. Moi, je les vois parce que je suis mère d'un enfant autiste. L'ordinateur a permis à certains gamins qui ne sont plus des gamins et qui sont des adultes maintenant d'avoir des interactions qu'ils n'auraient jamais pu oser avoir avec des gens comme vous et moi. Et ça, moi, je ne peux pas m'empêcher de trouver ça extraordinaire. Ça ne rend pas les autistes moins humains, hein, on est bien clair, mais au contraire, ils se rapprochent de nous et c'est génial. Mais ils cessent pas d'être autistes pour autant. Ça ne touche à la nature de personne et ça permet à tout le monde de communiquer, c'est fabuleux.
Ah bon, ceci dit, il y a dans notre société un certain nombre de gens qui ne maîtrisent pas les technologies, qui ne maîtrisent pas Internet. Moi, j'ai une belle-mère un petit peu âgée qui me dit « le monde est en train de changer, je me retrouve de plus en plus en dehors du monde, je ne comprends pas ce que devient le monde ». je m'y sens de plus en plus mal parce que le décalage entre elle et son environnement s'accentue. Et elle n'a pas Internet, elle n'envisage pas du tout l'idée d'avoir un ordinateur. Et elle a de plus en plus l'impression d'être sur le bas-côté de la route de manière irrémédiable. Et ça, c'est assez terrible.
I find in North America the technologies that have isolated people and driven people apart have nothing to do with computers. It's all the automobile and suburbanization and long commutes have destroyed neighborhoods and people don't know their neighbors.
En Amérique du Nord, à mon avis, de ce que je vois, les technologies qui ont séparé les gens n'ont strictement rien à voir avec l'informatique. C'est l'automobile, c'est l'extension des banlieues qui ont détruit les communautés, les quartiers, etc. Les longs temps de trajet.
The computer, if anything, has helped people recreate virtual neighborhoods and begin to rediscover common interests with other people.
L'ordinateur, au contraire, a plutôt permis de recréer des quartiers virtuels et de partager des intérêts communs entre les gens.
Oui, alors, en somme, c'est très intéressant, c'est que la technologie, on vit avec, et puis on ne peut pas parler en termes de bien ou de mal, mais en termes de qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on l'utilise. On peut l'utiliser, ça peut être un avantage ou ça peut être un inconvénient, suivant les situations. Et moi, ce que je trouve intéressant, justement, c'est que par rapport à la science-fiction, c'est que, à mon avis, c'est les seuls auteurs qui permettent d'explorer ce rapport à la technologie, à la science, aux nouveautés, et quelle est la place de l'homme dans tout ça. Mais c'est un long débat qui va encore nous occuper longtemps et qui nous permettra de découvrir encore de somptueuses histoires sous la plume des auteurs ici présents et d'autres. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Est-ce que vous avez encore une question dans la salle? Oui.
Comment?
La façon que les gens peuvent avoir de créer les techniques et leurs entreprises et grand-chose à voir avec la science-fiction en tant que telle, c'est une attitude qui est très certainement prévalente de nos considérables qui n'auraient pas été la même chose.
People being fearful may have no idea even that science fiction exists. And there's and the human presence in science fiction is just proved by the abysmally low number of science fiction stories that don't have a human component in it. You always have a human being somewhere. Even in post-humanity, you don't have fundamentally different creatures.
Ouais, je suis d'accord avec cette remarque. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai inclus les années Kvant dans l'anthologie que j'ai fabriquée, parce que c'est justement des cellules totalement non humaines qui regardent l'être humain. Alors ça, je trouvais intéressant. C'est vrai que là, il y a une piste à explorer au niveau de la création littéraire. Oui.
Phenomenon, because they talk to human beings if they want to have some kind of catharsis, of empathy. Don't you need to have to talk about humanity, whether it's science fiction or not? And you can help, but you can't help but talk about mankind.
Enfin, moi, je ne sais pas faire autrement, en tout cas.
Ce serait possible de faire autrement, oui, non? Non.
Je suppose que les gens, oui, d'autres gens, oui, mais moi, non.
Ouais. D'accord.
It seems to me that if you exclude the human factor, it ceases to be fiction at some point.
J'ai la sensation que si on exclut le facteur humain, ça cesse d'être de la fiction, en un sens.
I can imagine a genre you might call speculative non-fiction.
Je pourrais imaginer un genre que vous pourriez définir avec ce que vous dites, qui serait de la non-fiction spéculative.
But it wouldn't exactly be literature.
Mais je ne suis pas sûr que ce serait exactement de la littérature.
Oui, ça pourrait être un mode d'emploi.
It could be an instruction manual.
Voilà. Merci, merci beaucoup au public d'avoir assisté à cette table ronde. Merci aux auteurs de s'être exprimés, donc Robert Charles Wilson, Jana de Batz et puis Sylvie Lenné, dont vous retrouverez les livres sous la bulle du livre. Je vous encourage à lire ces auteurs qui parlent de l'humain malgré la technologie ou avec la technologie. Merci beaucoup.